France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Et l'on commence par ce nouveau départ de La République En Marche. Le député du Maine-et-Loire, Mathieu Orphelin, annonce qu'il quitte le groupe à l'Assemblée nationale, groupe majoritaire. Dans un mail adressé à ses collègues, il évoque un manque d'avancée en matière d'écologie notamment. Marine Le Pen à l'Élysée, la responsable du Rassemblement National, a été reçue pendant près d'une heure hier par Emmanuel Macron, lui conseillant de dissoudre l'Assemblée nationale. Elle a également suggéré au chef de l'État la mise en place d'une proportionnelle intégrale pour les élections législatives. Le patron de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a lui aussi échangé avec le président un peu plus tard dans la soirée. Quel rôle a joué Matignon dans l'enquête ouverte sur Mediapart à propos de l'affaire Benalla? C'est ce que veut savoir la brigade criminelle de Paris. Elle enquête sur l'enregistrement d'Alexandre Benalla et Vincent Kras, enregistrement détenu et diffusé par Mediapart, le média en ligne. Une enquête qui touche notamment la chef de la sécurité de Matignon. La Cour des comptes épingle le gouvernement dans son rapport annuel. Elle le met au défi de dépenser moins, estimant que les finances publiques sont fragilisées par les mesures annoncées pour répondre à la crise des gilets jaunes il y a quelques semaines. Dans l'opposition, le patron du parti Les Républicains, Laurent Wauquiez, dit craindre de futures répercussions sur l'impôt en France. Elle serait sortie de l'hôpital le 30 janvier dernier sur décision médicale, soit quelques jours avant le drame. La principale suspecte de l'incendie de mardi dernier à Paris a déjà effectué 13 séjours en hôpital psychiatrique. Les précisions viennent du procureur de Paris. 10 personnes, je vous le rappelle, sont mortes dans cet incendie criminel. À l'étranger, Donald Trump prédit une victoire totale sur le groupe État islamique en Irak et en Syrie. L'annonce formelle devrait intervenir la semaine prochaine. Voilà ce qu'a déclaré le président américain hier devant la coalition internationale. Et puis notons qu'au Venezuela, l'opposant Juan Guaido s'adresse aux militaires. Il leur demande de laisser entrer l'aide humanitaire dans le pays. Washington, par ailleurs, allié de Guaido, se dit prêt à exempter de sanctions les militaires qui rallieraient l'opposition.
France Culture et la Scala Paris présentent des nouvelles de Maupassant. Une lecture spectacle proposée par Marie-Louise Bischoff-Berger, réalisée par Cédric Ossire. Un écrivain dans une brasserie, à l'écoute des histoires intimes, tragiques ou cocasses, confiées par les uns et les autres au gré des conversations. Avec Marie-Sophie Ferdan, Jérôme Kircher, Lou Delage, Louis-Do de Langsin, Dominique Raymond. Des nouvelles de Maupassant, lundi 11 février à 20h30 à la Scala Paris, réservation 01 40 03 44 30 et sur franceculture.fr.
Vous écoutez France Culture, il est 6h03, Toufik Hakem est là pendant une demi-heure.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
C'est tous les matins à la radio ou quand vous voulez en passant par le podcast. Et tous les jeudis, c'est l'actualité musicale dans le réveil culturel. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du dernier album de Aziz Sahmaoui. C'est-à-dire qu'on va parler de world music, comme on disait dans les années 80 et 90. Et pour faire le point justement sur cette évolution de cette musique, le producteur de Aziz Sahmaoui, c'est-à-dire Martin Messonnier, est avec nous aujourd'hui.
Le réveil culturel. Jeudi. Musique.
مهد البشرية ومهد الكون اتزي
انياتو كانو مي با ميا دوزو نو مواني بازو مي ديبلاوا مي سوني مي اي كابا كابا كابالا
اي جنة جنة مغربية
لالا جبتي القمرة وجبتي الزين جبتي الدنيا كاملة جبتي الطماعة وجبتي العين ويلا السما غايمة شدة صغيرة تزول منا الحين يوم عندك السمراء فارقة وحنا كنا ساكنين
Garza kaskan jambar ke warwali ke ay barom nyak te bolay sa dolay takoy sa waref ya kar sa paskan jambar ke warwali ke ay barom nyak te
وارجع الحرار معادن ما تلوب بالنار يحميك القهار من الطماعة والعشرار بلاد انت يا مهما صار
Paradis africain, Jeunah, Efrequia. C'est ainsi que s'ouvre le troisième album de Aziz Sahmaoui, Poetic Trance. C'est chez Piass que cet album vient de sortir. Bonjour Aziz Sahmaoui.
Bonjour.
Alors, vous êtes quand même le musicien marocain, natif de Marrakech, qui a introduit ici, en Europe, il y a fort longtemps, il y a 20 ans, la musique des Gnawa, c'est-à-dire des Noirs du Maghreb, notamment avec l'ensemble, l'Orchestre National de Barbès.
Il y en avait auparavant, et on avait toujours, il y a eu
mais dans
toujours
leur forme
des voyages dans ce centre, l'Europe et l'Afrique. Donc il y avait toujours Tagnaout, l'art des Gnawa était vraiment présent. Et plus concrètement, musicalement, juste avant nous aussi, il y avait d'autres artistes qui se sont intéressés à cette musique.
Mais c'est plutôt les jazzman, c'est plutôt la scène jazz. Vous avez eu cette intuition avec l'Orchestre National de Barbès,
oui,
de l'inclure dans la pop.
C'est vrai, c'est là où c'était une vague importante et qui a embarqué beaucoup de monde. Tout le monde se retrouvait dans ce côté traditionnel, là oui, mais rock aussi. Et ça qui attrapait tout le monde. Donc les climats étaient festifs, ça plaisait, les gens étaient, la musique était légère, ça embarquait tout le monde. Les gens avaient besoin aussi de respirer autre chose et de s'identifier aussi à autre chose. C'est-à-dire le maghrébin à l'époque, là on parle de 95, il payait son billet, il payait sa place, on jouait à guichet fermé. C'était quand même impressionnant.
Et le storytelling était parfait parce qu'il y avait en plus ce festival à Essaouira consacré aux musiques Gnawa.
Oui.
C'était aussi une occasion pour parler de la place des Africains, des Noirs africains, des esclaves africains qui sont restés dans le Maghreb. Faut-il préciser, Aziz Sahmaoui, que vous n'êtes pas noir? Et donc cette musique, comment vous l'avez vécue d'abord à Marrakech où vous êtes né, vous avez grandi avant d'arriver en France dans les années 90?
C'est notre culture, elle fait partie de Ahouach, le sud du Maroc, de la musique berbère, la musique du Rif, la musique de l'Atlas, la musique sahraoui, le Hassan, le Shaabi, mais pas seulement. C'est-à-dire, il y a aussi cette vague culturelle, musicale aussi. Il y avait Neil Young chez nous, il y avait Crosby, il y avait Graham Nash, il y avait Emmylou Harris, il y avait Bob Dylan, il y avait tout ce côté rock aussi.
Et Jimi Hendrix, pour citer quelqu'un qui
voilà.
Passait, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est la légende, par Essaouira.
Oui, voilà. Ouais. Mais en tout cas, il y avait cet intérêt d'autres musiciens, d'autres écoles, et l'intérêt pour cette culture qui est Tagnaouit, l'art des Gnawa.
Vous avez participé à ce que cette musique soit connue, Aziz Sahmaoui.
Oui,
ça ne passait pas sur les ondes marocaines, algériennes ou d'ailleurs la musique Gnawa. Même s'il y a eu des expérimentations avec des jazzman qui se sont retrouvés dans cette transe noire.
Peut-être que le contexte aussi, comment on a sorti cette musique, comment on l'a enveloppée, comment on a eu affaire à des gens qui ont aimé cette musique et qui l'ont développée aussi. Je parle de certains producteurs autour de nous. Et aussi la sortir dans une forme qui séduit. On essaie de séduire. On était un groupe maghrébin, marocain, algérien, tunisien, français, mais on représentait la France partout dans le monde. C'était quand même incroyable. Je parle de 98 précisément, de 95 à 98 en tout cas. Et ça continue.
Est-ce que ça continue ou ça a changé? C'est pour ça que je tenais à ce que vous veniez avec Martin Messonnier. Bonjour Martin Messonnier.
Bonjour.
Alors, avant on parlait de la sono mondiale, de la world music. Avant il y avait même le fameux clivage entre ceux qui préféraient les musiques traditionnelles pures et ceux qui étaient avec vous, Martin Messonnier, pour que toutes ces musiques se retrouvent dans une sono mondiale, c'est-à-dire où on peut écouter du gnawi ou du raï ou de la musique africaine ou de l'afro jazz un peu partout dans le monde, parce que ça a été arrangé de telle sorte que tout le monde puisse danser sur ces tempos-là.
Moi, ça m'a, enfin, toutes ces classements m'ont jamais vraiment intéressé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est travailler avec les artistes. Et en fait, c'est plutôt pour moi, c'est quand c'est des artistes comme Aziz ou bien justement ou comme Khaled ou comme Fela ou comme Sonny Adé. Pour moi, ce sont des artistes qui sont des grands artistes. Voilà, le plaisir, c'est de travailler avec des grands artistes. Mais après, les classements, c'est pas moi qui.
Ni les classements, ni les casquettes, hein, parce que vous êtes tout à la fois journaliste, producteur. Vous avez produit une émission qui était très ouverte aux musiques du monde qui s'appelle Megamix et ça a duré une bonne dizaine d'années, mais vous êtes aussi maintenant DJ à vos heures perdues et producteur de ces musiciens. Comment ça a commencé? Est-ce que votre envie au début, parce que vous étiez en tournée avec Don Cherry, vous rencontrez je crois en Suisse Fela, est-ce que votre envie c'est de dire j'ai eu un grand plaisir à écouter Fela, j'ai envie de faire partager ce plaisir avec un maximum de monde et donc avec les Français?
Oui, c'était un peu ça. Ouais. C'était...
Et en passant par remixer ses musiques pour que ça puisse passer à la radio.
Fela, on pouvait pas remixer sa musique. C'était Fela, il m'avait fait une crise parce que j'avais fait un montage de en réduisant un de ses titres pour qu'il puisse passer à la radio. Il m'avait dit on ne coupe pas ma musique parce que chaque titre faisait 20 minutes. Donc c'était effectivement compliqué
pour que ça puisse passer en radio. Parce que c'était ça comme ça l'objectif. Hein,
ben voilà, c'est ça. Mais lui, il voulait pas. Donc c'est, mais bon, et voilà. Donc j'ai dû respecter son idée. Et bon, le montage il est passé à la trappe, c'est tout. Alors que c'était juste garder la partie vocale de sa chanson plutôt que de garder les solos interminables, quoi.
Vous avez aussi travaillé avec Manu Dibango, avec Amina.
Voilà.
Vous êtes même intéressé à la techno de Tel Aviv, Martin Messonnier, avec toujours cette envie de partager et donc de réarranger.
En fait, non. Le principal moteur, c'est le plaisir. Donc, c'est plutôt de rencontrer, enfin, de travailler avec des musiciens que j'aime, et puis de me retrouver dans des ambiances qui m'intéressent, quoi, et de partager des trucs ensemble. Donc, c'est un peu des vacances, quoi. Donc, à chaque fois, c'est en fait la partie la plus pénible, c'est la partie administrative. Le reste, c'est du bonheur.
Par exemple, Aziz Sahbaoui, pourquoi vous êtes allé voir Martin Messonnier pour produire deux de vos albums, de le dernier, je rappelle, qui vient de sortir, Poetic Trance?
On s'est rencontrés par hasard. C'était l'enregistrement de Khaled et il m'appelle pour faire un gombri ou deux sur un ou deux morceaux et c'est comme ça qu'on se rencontre. Ça se passe bien. Et donc, je profite de l'occasion. Je rencontre Martin. Je dis, Martin, j'aimerais que tu écoutes ce que je fais. Et donc, on s'est donné rendez-vous et je suis allé dans son studio et on a écouté une vingtaine ou plus de morceaux. Il a choisi quelques-uns. Et c'est comme ça qu'il a défendu University of Gnawa pour le premier.
Sur quelle base ce choix de quelques morceaux sur un corpus
Non, c'est vraiment c'est complètement irrationnel. Hein, c'est juste du plaisir, quoi. C'était voilà.
C'est juste du plaisir. J'ai dit Martin, je n'ai pas d'avocat, j'ai pas d'argent, mais j'aimerais faire un disque. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire?
Donc, on arrive au débat, parce qu'effectivement, ouais. Vous, dans les années 90, avec l'Orchestre National de Barbès, il y avait des tournées, il y avait des disques qui se vendaient, il y avait encore de l'argent dans l'industrie musicale, mais surtout, il y avait un intérêt pour la world music, ce qu'on appelait à l'époque la world music. Paris et Londres se disputaient pour savoir quelle était la capitale de la world music. Est-ce qu'on peut parler de cette période comme si c'était vraiment du passé, Martin Messonnier?
Pour moi, cette période elle est passée, c'est-à-dire que tout a évolué. Maintenant, on entend tous les jeunes sont passés dans les musiques maghrébines. D'un côté, ils sont passés à l'électro. Et puis en même temps, ils respectent les anciens, les vieux disques de Chabi. Les sons ont changé, donc les musiciens, ils ont intérêt à se renouveler, quoi. C'est ça C'est ça ce qui se passe. En musique africaine, c'est pareil. En musique africaine, c'est vrai que maintenant, la musique de, par exemple, de Sonny Adé, par exemple, qui était immensément populaire au Nigeria dans les années... ils vendaient des millions de disques. Bon, ben maintenant, c'est la musique des vieux. C'est comme Charles Trenet chez nous, quoi. C'est un
peu... Oui, mais sauf que les Geoffrey Orema, les Youssou Ndour, ouais, les Kim Sine Adé, ils n'ont pas été remplacés en France, je veux dire. Hein, alors qu'on sait qu'il y a d'autres talents qui émergent dans leur pays, oui, dans ces pays-là. Mais... Est-ce que c'est pas l'intérêt de l'Europe ou de la France et de l'Angleterre qui s'est arrêté à une certaine date?
Ah non, je pense que c'est pas comme ça. C'est-à-dire que il faut comprendre que. Quand ils sont arrivés en Europe, c'était des gens qui étaient déjà avec des carrières énormes, déjà. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand je suis allé chercher Fela ou King Sonny Adé, j'avais pas eu beaucoup d'efforts à faire au niveau de artistique, parce que c'était des gens qui étaient déjà des stars depuis 20 ans, qui avaient des groupes constitués. Alors, il y a des fois, Fela, il avait pas beaucoup d'argent à cette époque-là, mais Sonny, il était extrêmement riche. Donc, c'était plutôt... c'était plutôt de les aider à s'organiser. Il y a des artistes qu'il faut aider musicalement parce qu'ils se retrouvent dans des situations où ils
non, mais il y avait une demande, c'est ce que je voulais dire, Martin Messonnier. Est-ce qu'il y a la même demande est-ce qu'il y a la même ouverture aujourd'hui sur ces musiques-là?
Oui, il y a cette ouverture. On voit le succès de Davido, de Wizkid, qui sont dans les charts américains, ou Olamide, qui sont en train d'exploser. Tous les charts, je vois que la musique
en France aussi.
Ah ben c'est en France moins, mais parce que ils chantent en anglais. Mais en France, on voit il y a le groupe Toufan, le groupe togolais Toufan. Il y a les Ivoiriens qui font des cartons terribles en boîte. Et en fait, il y a un autre réseau. Tout ce réseau de musique africaine dansante, ça existait avant. Ça a toujours été underground. C'était autrefois, c'était les quatre étoiles, c'était les guitaristes congolais, c'était Pépé Calé et tout ça. Ça, c'est des artistes qui étaient des artistes formidables qui ont jamais explosé parce que la presse française s'y est jamais intéressée. Et en fait, tout ça, ça continue. C'est-à-dire que ça évolue, ça continue. Ça, c'est vrai que la presse française s'est intéressée surtout à ces noms qui étaient, bon, comme Salif Keita, c'est déjà des piliers solides, quoi. Et puis c'était surtout ceux qui avaient des gros contrats de disques. Parce que des artistes, il y en a plein. Moi, je veux dire, j'en entends, il y a plein. Au Ghana, en Éthiopie. Alors en Éthiopie, ça. C'est...
Mais est-ce qu'il y a des maisons de disques encore aujourd'hui en France ou en Angleterre qui seraient intéressées par les faire connaître ces
artistes? Il y a des labels. Oui. Il y a. Comme là, je vois que tôt ou tard, ils ont signé Blik Bassi. Blik Bassi, il va avoir une belle carrière. Voilà. Mais.
Parce que Aziz Sarmaoui semblait nous dire que la donne a complètement changé. Il n'y a plus cet argent qu'il y avait dans les années 90 quand vous étiez dans l'Orchestre National de Barbès.
Ou même s'il y a encore cet argent, c'est les mentalités qui ne changent pas, c'est-à-dire on demande toujours plus, et même quand il y a plus, on veut encore plus. Et on passe à côté de quelque chose qui s'appelle le plaisir et le bonheur de faire les choses, pas gratuitement, mais instinctivement, avec joie et avec on n'attend pas autre chose. Ça fausse la donne, en tout cas pour moi, pour le monde où j'ai grandi, ou le monde d'où je viens. Je regrette cette sincérité, ce bol sécurisant qui...
Ce dialogue qu'il y a dans vos disques, parce que vous avez beau avoir comme langue de base l'arabe, le mohrabi, c'est-à-dire le marocain, dans vos albums, vous invitez des musiciens et des chanteurs africains, des griots, cette envie d'affirmer le côté africain, les racines africaines du Maroc, et de continuer ce dialogue avec les musiciens de ce continent, pour vous, c'est quelque chose de voulu, c'est votre combat.
C'est notre culture, c'est notre langage, c'est une forme d'expression qui est dans le partage et dans ce que l'autre fait de bien. C'est ce qu'il faut voir en l'autre. Et c'est ce qui embellit nos jours. C'est ce qui embellit notre travail. C'est ce qui enrichit notre travail. Et on peut s'auto-suffire, peut-être, ça peut plaire, mais ça ne m'intéresse pas. J'aime aller vers l'autre. J'aime travailler avec l'autre. J'aime construire avec l'autre. J'aime ce partage et j'aime ces improvisations. Mais j'aime aussi cette façon de construire dans l'expérience de l'autre. Parfois, j'ai tendance à simplifier les choses, à réduire ces problèmes gigantesques qui prennent des envolées incroyables, les frontières, les guerres, les fléaux, la médecine, les laboratoires. C'est incroyable. Mais quand est-ce qu'on va s'arrêter une petite seconde et vivre un petit peu sans penser à tout ça? Quand est-ce que on peut jouir d'un moment agréable, un instant qui va durer comme si c'était une éternité? Ça va nous faire du bien, comme un bon shoot dans naturel, une bonne dose de soleil, une bonne dose de bonheur.
Oula, vous êtes parti très loin. C'est pas seulement peace and love, c'est aussi une certaine spiritualité que vous avez. Est-ce que ça appartient au Gnawa?
Certainement. En fait, certainement, parce que les Gnawa, c'est ces musiciens, thérapeutes, cette confrérie de musiciens qui emmènent à la danse, qui emmènent ce corps fatigué, malade, à sortir de cette carapace et de ce muscle bête et l'emmener à danser. Mais l'emmener à danser pourquoi? Parce que nous sommes dans une société malade aussi. Et ce corps, il devient malade à force. Donc il a besoin de sortir de ses crises. Il a besoin de s'exprimer. Il a besoin de danser, tout simplement. Et cette transe, on la trouve dans toutes les cultures. Quand on parle des Gnawa, oui, mais les Gnawa, c'est le tsar soudanais, c'est le voodoo haïtien, c'est le stambali tunisien, mais c'est aussi le rock pur et dur aussi. Ce côté rock festif qui nous attrape et qui fait qu'on se sent bien. Il est important de vivre cet instant, comme si ça nous concerne. Et vous voyez, quand votre frère se marie ou il y a une fête, c'est ta famille et tu es concerné, tu participes sans compter, sans réfléchir, sans limite. Ça me parle. C'est-à-dire aider l'autre ou aller vers l'autre sans calculer.
بيرنا يرويها وكل لحومة تعنا بعمرها يا سيدي وتزيد نعومة كتر من دا فرحانة شجر ملمومة الخوخة كبرت وكبرت اللومة على مول الدار فعل مسمومة هدامة ردامة وناس مظلومة باردة باردة شفوني يحميها الخوخ طاب وزاد الروايح معدومة والناس بالفاس بالجنان مغرومة شكوني فوق صراح العرض المحرومة لا انصار ولا مريكان رحنا وانتوما فرقت سود فرق سياسة مشحومة وصعيبة صعيبة وطريقة اليومة هيلي ونادى ومالي والمحكومة يا محكومة ملزومة ليس مرشومة بدها تكون عندي شجرة ندي على الصحراء تكون عندي شجرة نغرسها في الصحراء لا تكون عندي شجرة نديها للصحراء
لا تكون عندي شجرة نغرسها في الصحراء. عزيز سحماوي et l'Université of Gnawa, c'est son groupe Poetic Trance. C'est son troisième album qui vient de sortir chez Pias, arrangé, produit par Martin Messonnier. Vous savez à peu près tout ce qu'on dit dans ses chansons, Aziz Sahmaoui?
Ah oui,
il vous raconte tout?
Ah ben c'est moi, je demande. Pour moi, c'est extrêmement important que les morceaux justement correspondent, enfin que l'ambiance corresponde au texte, quoi. C'est ça me paraît une des bases du travail, quoi.
Qu'est-ce que vous faites en ce moment, Martin Messonnier? J'ai vu quelque part que vous vous produisiez en public en tant que DJ.
Absolument. Oui.
Ça veut dire quoi?
Absolument. Ben, c'est en fait j'ai plein de travail personnel que je mixe à la maison.
Et comme les radios et les télévisions ne les programment pas,
je leur donne pas non plus. Non, mais, et donc j'en garde l'exclusivité. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est des trucs que j'ai gardés pour moi. Et puis en fait. Je mélange ça et puis je passe des disques de gens que j'aime bien et puis voilà, et en fait en général les gens c'est comme ça, et c'est les gens aiment danser dessus, voilà.
Vous continuez à sillonner le monde ou du moins à laisser vos oreilles faire le tour du monde?
Ah ben ça c'est un peu une passion, hein. Donc moi je suis toujours en chasse de titres et puis enfin j'écoute tout ce qu'on m'envoie, quoi.
Et vous-même, Aziz Sarbawi?
J'écoute, mais j'avoue que c'est dernier temps, j'étais plus à trouver un mot, une phrase, une métaphore, une image.
Parce que c'est vous qui écrivez les paroles des chansons de cet album?
Oui, absolument.
Vous reprenez pas seulement des poèmes anciens que vous réactualisez?
Non. J'aime écrire mes textes et donc j'essaye de les soigner, d'arriver à les simplifier aussi, mais sans les... que le mot trouve sa place, voilà, tout simplement. Donc j'avoue que ça m'a pris beaucoup de temps, mais maintenant que c'est fini et que justement on souligne ou on trace un pont entre l'Afrique et la France, entre l'Afrique et le monde, grâce à ce son qu'on vient de réaliser avec Martin, grâce à Martin même, parce que moi j'étais loin de penser de la façon.
Alors justement, qu'est-ce qu'a ramené Martin Messonnier à vos compositions,
justement,
à vos chansons?
Ça, c'est-à-dire on trouve ce côté rock européen, on va dire, mais en même temps, quand vous vous baladez dans le morceau, plus loin, vous dites, mais non, là, nous sommes au Sénégal, là, et puis plus loin, on entend le Ngundi, donc c'est le Maroc, puis on entend les guitares d'Hervé Sambe ou les guitares d'Amen.
Quand c'est pas donc, carrément l'accordéon qui nous surprend.
Voilà, ouais. Et donc, dans ce voyage, pour moi... En tout cas pour cet album, et je suis satisfait de sentir cet équilibre qui est important pour moi entre l'Afrique, l'Europe, l'Afrique et le reste du monde.
Merci Aziz Sarbawi d'être passé pour nous présenter votre dernier album, Poétique Trans, chez Piaz. Merci beaucoup Martin Messonnier d'avoir vous aussi accepté mon invitation pour nous donner quelques nouvelles de la planète World Music. Ça se dit encore?
Peut-être. J'espère pas trop longtemps. Voilà. Pour moi, c'est la musique World Music, c'est la musique des autres. J'aime pas trop. C'est comme la diversité. C'est des termes que j'aime pas.
Alors comment vous présentez par exemple le disque de Aziz?
C'est le disque d'Aziz.
Quand on a envie de savoir quel genre,
Se dit, c'est de la musique africaine, marocaine et africaine. Enfin.
Voilà, c'est bien résumé.
Européenne aussi.
Ouais, puisque tous les musiciens sont français, hein. Depuis le temps qu'ils sont là.
Oui, c'est vrai, hein. Ouais, un peu de tout ça. Ouais. Et c'est ça qui me plaît, en fait. C'est cette diversité.
Merci beaucoup d'être passé.
Hey, Allah. يا نبينا يا رسول الله حبيب قلبي نبي الله يا رسول الله جلال صلى نبينا يا رسول الله يا الله يا نبينا يا رسول الله يا الله يا نبينا يا رسول الله جلال صلى نبينا يا رسول الله نبينا الله يا نبينا يا رسول الله حبيب قلبي
Ajila la sala nabina ya rasul France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture, la Bibliothèque nationale de France et le Centre national du livre présentent En lisant, en écrivant, une collection de masterclass littéraires en public avec de grands écrivains contemporains. Mardi 12 février à 18h30, retrouvez Mathias Sénard, écrivain et traducteur français, prix Goncourt 2015 pour son roman Boussole. Une rencontre animée par Zoé Sfez. Entrée libre dans la limite des places disponibles à la BNF François Mitterrand, Paris 13e. Programme complet, franceculture.fr.
Chaque jour à 14h, entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Roquigny.
L'économie prend les armes sur France Culture. Chaque année, le monde dépense plus de 2% de son PNB pour s'armer. Un marché colossal qui aiguise les appétits des grandes puissances et alimente le commerce illégal. Alors la guerre est-elle un moteur pour l'économie ? Et que permettent la recherche militaire et l'essor de l'industrie de l'armement ? Aux armes, etc. C'est toute cette semaine dans Entendez-vous l'écho.
Entendez-vous l'écho, du lundi au vendredi à 14h et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Le rôle de Matignon en question dans l'affaire dite Benalla. Matignon confirme avoir transmis des informations au parquet de Paris au sujet de l'enregistrement révélé par Mediapart. Cela aurait mené à la tentative de perquisition dans cette affaire Benalla. Nous y reviendrons. Dans cette édition, vous comprendrez aussi pourquoi la Chine n'est pas prête pour le moment à investir massivement dans le ferroviaire en France. Paris et Berlin ont pourtant évoqué leurs craintes après le rejet par l'Union européenne de la fusion entre Alstom et Siemens. Et puis pourquoi la France est-elle intervenue militairement ces derniers jours au Tchad ? Une colonne venue de Libye menaçait la stabilité dans la région, nous y reviendrons. Pas un jour ne passe sans une nouvelle information sur cette affaire dite Benalla. Après la diffusion hier par Mediapart d'un nouvel enregistrement à propos d'une discussion privée entre l'ancien chargé de mission à l'Élysée et Vincent Crase, tous les deux mis en examen pour des violences du 1er mai dernier, après la diffusion donc, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour atteinte à la vie privée et possession d'appareils d'enregistrement illicites. Jusque-là, rien de neuf ce matin, mais le parquet aurait en fait été alerté par Matignon directement. Le cabinet du Premier ministre a visiblement eu des doutes sur une possible implication de la chef de la sécurité d'Édouard Philippe et sur son mari qui est un militaire, un proche d'Alexandre Benalla. D'où la saisie Emmanuel Leclerc de la brigade criminelle du 36.
On comprend mieux désormais pourquoi c'était une affaire réservée dans le langage policier, une affaire très sensible, et pourquoi c'est la brigade criminelle du 36 qui a récupéré cette enquête qui ciblait finalement peut-être moins Mediapart que ce couple proche d'Alexandre Benalla. L'épouse, commissaire divisionnaire et surtout chef de la sécurité du Premier ministre, lui, militaire, déjà suspecté d'être au cœur d'un contrat de sécurité privé avec un oligarque russe, selon nos confrères de Libération et de Valeurs Actuelles, contrat dans lequel Alexandre Benalla serait impliqué alors que ça se passait à l'époque où il était en poste à l'Élysée. Conflit d'intérêts ou espionnage, mais pour le compte de qui ? Matignon a affirmé hier avoir été prévenu de rumeurs sur la chef de sa sécurité et son mari par des questions posées par des journalistes et d'en avoir avisé aussitôt le parquet de Paris en précisant que la commissaire divisionnaire a formellement démenti être à l'origine de cet enregistrement diffusé en partie par Mediapart.
Et pendant que le sommet de l'État semble embarrassé par cette affaire, le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale perd l'un des siens. Le député Mathieu Orphelin annonce son départ du groupe La République En Marche. Départ que ce proche de Nicolas Hulot justifie par le manque d'avancée en termes d'écologie et de justice sociale. Sixième débat en perspective pour Emmanuel Macron. Ce jeudi, il sera en Bourgogne et le président cible cette fois les jeunes. Il doit discuter en Saône-et-Loire à Étang-sur-Arroux de formation et d'avenir professionnel avec un millier de jeunes âgés de 15 à 25 ans. Un Tour de France qui ne plaît pas à l'opposition, qui l'accuse de faire une campagne électorale déguisée. Chez le parti Les Républicains, le député Éric Woerth regrette surtout que pendant ce temps, rien n'avance ou presque.
Le gouvernement, le président de la République, se transforme en animateur de grands débats. Enfin, bientôt animateur de télévision. Et la France, elle a besoin d'être gouvernée, elle a besoin de décisions. Enfin, les autres pays ne nous attendent pas. Vous croyez que les Chinois, vous croyez que les Américains, vous croyez que les Européens passent leur temps à débattre. Alors, c'est un président de la République, c'est pas un prof de Sciences Po, c'est pas un grand oral de l'École nationale d'administration. Donc, briller dans un grand débat, accaparer les médias, me semble assez décalé par rapport à la nécessité de réformer notre pays. Mais le gouvernement, en ce moment, il est en vacances. Il est en vacances, on est en plein mois de février, il n'y a pas un ministre qui accouche de quelque chose. Et chaque fois qu'un sujet sérieux arrive devant la scène, on nous explique qu'il y a un grand débat et qu'il faut en discuter au moment du grand débat. C'est une manière de rejeter toujours à plus loin les décisions qu'on doit prendre. Et honnêtement, les décisions sur les réformes, elles sont devant nous. Et les décisions difficiles à prendre pour essayer de réduire la dépense publique, elles sont devant nous.
Le député Éric Woerth avec Rosalie Lafarge. De réforme, il en est question après le rejet par la Commission européenne du mariage entre Alstom et Siemens. La France et l'Allemagne s'insurgent et disent vouloir renégocier les règles de la concurrence dans l'Union européenne. C'est une faute économique et politique, estime ainsi le porte-parole français Benjamin Griveaux. Le gouvernement craint la possible arrivée chinoise sur le marché ferroviaire en Europe. Mais il n'y a aujourd'hui pas de quoi s'alarmer. Voilà ce que dit Marc Ivaldi. L'économiste était hier soir l'invité du journal de 22h de Stanislas Vazak.
Les réseaux ferroviaires en Europe sont très fragmentés. Ils utilisent des technologies très très différentes. Donc ça veut dire qu'il aurait fallu et il faut que les Chinois investissent dans beaucoup de technologies pour pouvoir vraiment rentrer. Vous prenez un TGV, c'est vrai que ça s'appelle TGV, mais un TGV chinois, vous le mettez en France, sur les rails d'un TGV français, ben il ne marche pas, parce qu'il faut des logiciels, il faut des technologies de signaux qu'ils n'ont pas pour le moment.
Est-ce qu'il y a encore une supériorité technologique européenne dans le rail face aux constructeurs chinois ?
Pour le moment, elle est encore très forte. C'est ça qui est important, à mon avis. Les politiques européennes devraient se consacrer là-dessus. Développer la recherche, l'innovation dans ces technologies, continuer à le faire, rendre le réseau européen encore plus interopérable de façon à pouvoir standardiser beaucoup plus.
Le groupe français Alstom, en tout cas, dit maintenant vouloir repartir de l'avant. Il écarte ainsi toute renégociation de l'accord avec l'allemand Siemens. Des avions de combat français ont frappé hier le nord-est du Tchad. Ils ont visé une colonne de pick-up lourdement armée venue de Libye, contre laquelle français et tchadiens étaient déjà intervenus le week-end dernier. Cette incursion française menaçait la stabilité dans le pays, Nathalie Hernandez.
Au départ, il s'agit de donner un coup de main aux Tchadiens en vertu de la relation qui unit les deux pays. Une colonne armée d'une cinquantaine de pick-up venant de Libye vient d'entrer ce 1er février au nord-est du pays et l'armée d'Idriss Déby, pourtant considérée comme une des plus solides, n'arrive pas à faire rebrousser chemin aux rebelles. Deux avions de chasse français vont d'abord ce week-end les intimider en survolant le convoi à basse altitude, puis quelques heures plus tard procéder à deux frappes. Mais ce sera insuffisant. Profitant alors d'une relève d'équipage, la France met à disposition du Tchad 6 appareils. Hier avant-hier, ce sont donc 3 patrouilles aériennes françaises, appuyées par un drone Reaper, qui vont revenir bombarder la colonne. Une vingtaine de véhicules seront mis hors de combat. Mais la situation reste préoccupante. Matignon, comme le prévoit la Constitution, a alerté par écrit les députés de cette intervention. Et le Quai d'Orsay a de nouveau recommandé aux ressortissants français de ne pas se rendre dans cette zone. D'autant plus qu'on ignore pour l'instant ce qu'a fait la trentaine de véhicules restants.
Des précisions signées Nathalie Hernandez à propos de cette incursion libyenne combattue par la France au Tchad. Et revoilà Theresa May à Bruxelles. La première ministre doit rencontrer aujourd'hui le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, pour, espère-t-elle, renégocier l'accord sur le Brexit. Une clause de sauvegarde concernant l'Irlande pose pour l'instant problème au Royaume-Uni. Cette clause doit éviter le retour d'une frontière physique en Irlande. Preuve de la tension ambiante, le président du Conseil européen, Donald Tusk, s'en est pris hier aux promoteurs du Brexit, s'interrogeant sur la place spéciale en enfer. Ce sont ces mots, la place qui leur serait réservé. Le gouvernement espagnol vient de rappeler certaines municipalités à leurs obligations, mais il leur demande de supprimer tous les noms de rues, toutes les places ou les monuments à la gloire du franquisme en Espagne. Une loi datant de 2007 les oblige déjà, mais 656 communes espagnoles ne l'appliquent pas correctement, Mathieu de Taillac.
Difficile de rater la Calle Generalissimo, la rue du Généralissime. Elle traverse tout le centre-ville de Socuellamos, une ville de 13 000 habitants à 200 km au sud-est de Madrid. À Villarta de San Juan, 2800 habitants, se trouve une rue du 18 juillet, comme le 18 juillet 1936, date du coup d'État contre la République, ou, comme le disaient les franquistes, du soulèvement. Dans la grande et historique ville de Salamanque, c'est une place des caídos, ceux qui sont tombés pour Dieu et pour l'Espagne, autrement dit, les victimes du camp national. Cela fait 12 ans que ces noms auraient dû légalement disparaître, et pourtant subsistent 1171 rues et places mal nommées que les maires ont laissées, rarement par nostalgie franquiste, parfois par paresse, souvent par peur de gêner une partie de leurs habitants sur un sujet qui continue de diviser profondément les Espagnols. Il ne faut pas, dit-on à droite, rouvrir les blessures du passé, même si, répond-on à gauche, ces plaies n'ont jamais été refermées quand des milliers de victimes sont encore enfouies dans les fosses communes dont les familles ignorent l'emplacement. Une lettre a été envoyée à des centaines de mairies pour qu'elles appliquent enfin la loi et cessent d'honorer les vainqueurs de la guerre civile et les dignitaires de la dictature, 44 ans après la mort de Franco.
Une réunion internationale s'ouvre aujourd'hui à Montevideo en Uruguay. Européens et latino-américains veulent trouver une issue négociée à la crise au Venezuela. Sur place, le bras de fer entre le président Nicolas Maduro et le chef du Parlement Juan Guaido. Ce bras de fer se concentre maintenant sur l'arrivée de l'aide humanitaire dans le pays. En France, la pluie se décale vers l'est ce matin, laissant quelques rayons de soleil sur l'ouest de la France avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation par l'Atlantique. Près de la Méditerranée, le temps s'annonce plus clément. Il faut compter 5 degrés ce matin à Strasbourg et Lyon, 8 à Paris, Lille et Nantes, 9 degrés à Bordeaux, 12 à Perpignan. 6h40, très exactement. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Pour votre journal des idées ce matin, vous vous interrogez sur la révolution copernicienne. L'expression est employée par l'économiste Patrice Geoffron dans une tribune sur la transition écologique publiée dans Le Monde.
Et oui, et son titre est tout un programme. Un grand récit aura manqué pour donner du sens à l'effort. Selon le prof à Paris Dauphine, face au défi de la transition écologique et au poids des énergies carbonées, 80% du bilan énergétique mondial. Le seul déploiement massif d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques ne suffira pas. C'est pourquoi il parle de révolution copernicienne, dès lors qu'il implique de réformer l'aménagement territorial, l'urbanisme, l'habitat, les transports, l'agriculture, l'industrie, le commerce international, même l'impératif est bien d'inventer un nouveau modèle de société. Dans les nations démocratiques, cela suppose de réinventer des processus délibératifs, de manière à éviter les fractures sociales et territoriales, car seules les sociétés où les objectifs de cette transition auront longuement infusé, où le sens des efforts sera largement partagé, où la charge aura été équitablement répartie, gagneront en résilience et progresseront. Et pour ajouter du sens à ce nouvel horizon d'attente à l'échelle planétaire, ce que la juriste Mireille Delmas-Marty appelle les forces imaginantes du droit peuvent apporter leur contribution. Dans un article dense et éclairant publié sur le site d'information et d'analyse AOC sous le titre « Repenser le droit à l'heure de l'anthropocène », elle souligne ce paradoxe. Au moment où l'humanité devient une force tellurique capable d'influencer l'avenir de la planète, elle semble impuissante à influencer son propre avenir, car rien ou presque rien ne semble changer dans la vision nationaliste et souverainiste qui sous-tend les systèmes de droit conçus et pensés à partir des États. Pourtant, la globalisation implique de fait une déterritorialisation, qu'il s'agisse des flux financiers ou de l'information, des risques globaux, climatiques ou sanitaires, des crimes globalisés, trafic, corruption, terrorisme. Le mot globalisation renvoie d'ailleurs à la forme sphérique de la Terre, et c'est elle qui inspire à Emmanuel Kant ce principe de droit, ne pas être traité en ennemi dans le pays où l'on arrive. Le principe d'hospitalité universelle s'impose selon lui parce que la dispersion à l'infini est impossible et que les relations de plus en plus étroites entre les peuples sont portées au point qu'une violation de droit dans un lieu est ressentie partout. À l'époque, la planète abritait à peine 1 milliard d'êtres humains. Aujourd'hui, nous avons dépassé les 7 milliards et la révolution numérique accroît l'interdépendance entre groupes humains. Donc, l'horizon d'une internationalisation du droit se dégage sur le front écologique, à la faveur notamment de l'apparition de nouveaux concepts comme le patrimoine commun de l'humanité ou les biens publics mondiaux, de nouvelles catégories comme les générations futures, de nouveaux crimes comme l'écocide et les préjudices écologiques à réparer. La révolution copernicienne doit donc s'entendre également au niveau des représentations juridiques. politique. Tout le vocabulaire, fondation, fondement, droits fondamentaux, incite à se représenter l'ordre juridique comme un équilibre statique. Mireille Delmas-Marty suggère un autre système de représentation inspiré par le modèle de la rose des vents. Celle-ci permet de faire le point et de repérer les principaux vents de la mondialisation, montrer les contradictions, voire les tourbillons qu'ils génèrent. D'abord entre les vents dominants, liberté contre sécurité, compétition contre coopération, puis entre les vents d'entre les vents, innovation contre préservation, exclusion contre intégration, de façon à élaborer une pensée juridique ouverte en mouvement et moins dogmatique à l'échelle planétaire. Pardon, pour repeupler un imaginaire naturel qui redonne du sens à notre présence au monde, Marielle Massé en appelle au lyrisme spontané des oiseaux, dont elle prévient qu'il pourrait bien se taire un jour si l'on y prend garde. En 15 ans, près d'un tiers d'entre eux ont disparu de nos paysages. La dernière livraison de la revue Critique pose la question « Comment vivre dans un monde abîmé ?» En écoutant le chant des oiseaux, comme font les poètes, et en prenant la mesure de ce que serait un monde sans eux, ni leur intimité sonore, leur langage sans parole. Marielle Massé rappelle la remarque de Francis Ponge. En français, le mot « oiseau » contient toutes les voyelles de l'alphabet. Cela en fait une sorte de chant intérieur ou latent. Comment imaginer un printemps sans oiseaux ? La revue « Les Others », les autres, c'est-à-dire aussi les vivants non humains, s'emploie par le reportage et la photographie a donné voix et figure à notre environnement naturel. L'écrivain et aventurier John Davis parcourt des milliers de kilomètres à la marche, en canoë et en vélo, de la Floride jusqu'au Québec et du Canada au Mexique, pour observer les entraves posées par les infrastructures humaines au libre déplacement des animaux et imaginer des solutions pour reconnecter de larges espaces sauvages. Ça s'appelle le rewilding, le réensauvagement. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, l'heure de retrouver les enjeux internationaux avec vous, Julie Gacon.
Bonjour, bonjour Jacques Minier,
puisque
bonjour à tous.
Vous remplacez Xavier Martinet cette semaine.
Oui, lequel rentre mardi.
Alors au programme des enjeux aujourd'hui, le Salvador et son nouveau président.
Oui, une république d'Amérique centrale en marche. Le tout nouveau président du Salvador a été récemment comparé par CNN comme le nouvel Emmanuel Macron de ce bout de continent, ni de droite ni de gauche. Et bien plus jeune loup que vieux briscard en politique. La comparaison est donc de CNN, même si ce président a été maire de la capitale San Salvador. C'était en tout cas sa première campagne présidentielle qui était la sixième depuis la fin de la guerre civile il y a 12 ans. Et en cela, la comparaison s'arrête là. Le Salvador, grand comme la Bretagne, mais où vivent plus de 6,5 millions de personnes, est toujours l'un des plus violents au monde pour un pays en paix. 3340 homicides en 2018 et encore les statistiques sont à la baisse. Nayib Bukele, c'est le nom du nouveau président, a promis de mettre fin à la violence et à la corruption. Bonjour David Garibay.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Lyon 2. Quels atouts a fait valoir ce jeune homme, Nayib Bukele, 37 ans, pour avoir été élu dès le premier tour ?
Alors la première chose, vous l'avez dit, c'est sa jeunesse, effectivement. Donc c'est quelqu'un qui sa jeunesse, le fait qu'il s'est présenté comme un candidat anti-parti. Alors ça n'est pas un candidat anti-système puisque c'est quelqu'un qui a déjà une expérience politique, qui a été maire de la capitale, avant il a été maire d'une autre petite ville, mais ce qu'il a réussi justement à faire en tant que maire, il a valorisé dans sa campagne. Forte polarisation sur sa personnalité, sur sa figure. Et puis,
on peut le décrire physiquement d'ailleurs, il porte toujours un blouson en cuir,
oui,
les cheveux gominés.
Voilà, une barbe courte, et toujours cette capacité à se mettre en scène en fait, à la fois pendant la campagne, mais aussi quand il était maire de la capitale, donc à mettre en avant en quelque sorte sa jeunesse, le fait que c'est quelqu'un de dynamique, d'actif, qui serait très entrepreneur, etc., etc. Et donc ça, il a beaucoup mis en avant dans la campagne, où il a beaucoup utilisé d'ailleurs les réseaux sociaux de manière très positive, en valorisant ce qu'il est, et ce qui lui a permis de rencontrer le succès électoral à l'occasion de cette campagne électorale.
Un petit mot sur le fait qu'il soit descendant d'immigrés palestiniens. Il y a une forte communauté arabe palestinienne, en tout cas en Amérique latine et centrale.
Oui, tout à fait, dans plusieurs pays d'Amérique latine. Alors souvent on les appelle par assimilation, los turcos, les turcs, alors qu'ils ne viennent pas de Turquie, mais c'est cette idée de cette immigration palestinienne, et effectivement son père est né en Palestine, et c'est souvent une immigration qui a réussi économiquement, donc qui fait partie de l'élite économique, et c'est le cas d'ailleurs de Nayib Boukele. Son père a été un entrepreneur à succès, ça a été aussi d'ailleurs un leader religieux, et Nayib Boukele lui-même a repris l'entreprise de son père, une entreprise de publicité, où il a eu beaucoup de succès au niveau économique avant son entrée en politique.
C'est assez particulier, intéressant à décrypter ce fait que Nayib Boukele se définisse comme anti-parti, alors qu'il a lui-même navigué sans trop de scrupules entre la droite et la gauche dans un pays qui a longtemps été très polarisé politiquement.
Oui, effectivement, un pays où le panorama politique en fait a reflété pendant très longtemps, en tout cas jusqu'à cette élection, le clivage qui avait été au cœur de la guerre civile, donc la guerre civile qui a duré jusqu'en 1992, et où on avait deux grands partis, un parti de gauche issu de l'ancienne guérilla et un parti de droite d'orientation néolibérale, proche du secteur privé. Et en fait, Nayib Boukele, il a réussi, dans un premier temps, d'ailleurs, il était membre du parti issu de l'ancienne guérilla, et puis il a été, mais c'était plus un... disons, une jase pragmatique de ce parti, et puis il a été expulsé de ce parti, il a utilisé un autre petit parti, mais simplement parce qu'il avait besoin d'un parti politique pour se présenter aux élections, et en fait, sa campagne s'est présentée très très largement sur sa personne à lui, et non pas sur un contenu programmatique ou sur un contenu partisan.
Mis à part peut-être ce slogan, il y a assez d'argent quand personne ne vole, ce qui n'est pas partisan, mais ce qui est un début de programme. Sur les quatre derniers présidents du Salvador, trois ont été poursuivis pour détournement ou corruption. L'un d'eux, par exemple, aurait détourné 10 millions de dollars d'aides internationales envoyées après le tremblement de terre de 2001. Alors lui est mort avant son procès. Comment Nayib Boukele veut et peut éventuellement mettre fin à la corruption endémique au Salvador?
Alors, il y a à la fois une corruption et il y a à la fois une poursuite de la corruption. C'est ça qui est intéressant, le fait que justement ces trois anciens présidents fassent l'objet de poursuites judiciaires montrent une certaine capacité du système pénal à poursuivre les anciens présidents, qui sont souvent des personnes qui ont encore de l'influence politique. Et justement cette visibilité du fait que des anciens présidents, d'un côté comme de l'autre, sont soit condamnés, soit poursuivis pour des affaires de corruption, a été justement utilisé par Nayib Boukele pour cela. Et ce que lui met en avant, c'est l'idée que il n'y a pas besoin de corruption pour gouverner. Alors, c'est toujours la polarisation sur sa propre personne, sur sa propre trajectoire. Mais c'est sûr qu'il a des défis très importants pour gouverner, et qu'il va devoir accompagner cette opération de lutte anti-corruption. C'est d'ailleurs un discours qu'on entend dans beaucoup de pays en Amérique latine aujourd'hui.
Lutter contre la corruption et la violence, de quelle violence s'agit-il? Est-ce qu'en tout cas on est dans le cadre de cartels de la drogue, qui sont ces maras qui sèment la terreur?
Alors c'est pas des cartels de la drogue, comme il a pu en exister ou il en existe toujours en Colombie ou dans d'autres pays de la région. Ce sont plutôt des groupes qui sont composés de très jeunes hommes, très souvent des adolescents ou des très jeunes adultes, qui ont un ancrage territorial assez important dans les quartiers populaires, dans les quartiers périphériques, surtout de la capitale, et qui ont été dans un premier temps composés par des Salvadoriens qui avaient migré aux États-Unis, qui avaient été expulsés des États-Unis et qui sont qui se sont retrouvés au Salvador, souvent sans beaucoup de liens familiaux, et qui ont constitué ces groupes qui procèdent à la violence, beaucoup par l'extorsion, en particulier par exemple les entreprises de transport, des commerces, etc. Donc une forme de mafia vend sa capacité de protection. Et ces maras se sont beaucoup développées. Elles ont été des acteurs extrêmement importants de la vie sociale d'abord, et puis ensuite aujourd'hui aussi de la vie politique. Et les programmes qui ont été mis en œuvre par les gouvernements antérieurs ont été essentiellement des programmes de but, de programmes sécuritaires, de renforcer les capacités de répression, de limiter l'existence de ces groupes, mais qui n'ont pour l'instant pas eu de résultats, malheureusement, puisque la violence de ces groupes est toujours importante. Et donc ces groupes, en fait, se nourrissent de trafic très varié, et puis d'extorsion vis-à-vis de d'acteurs économiques.
David Garibay, des milliers de Salvadoriens ont quitté le pays, notamment pour les États-Unis, ce qui contribue d'ailleurs à nourrir les diatribes de Donald Trump contre tous ces pays d'Amérique centrale, Salvador, mais aussi Honduras, Guatemala, d'où viennent ces caravanes de migrants dont Xavier Martinet a déjà parlé dans les enjeux internationaux. Dans quelle mesure aujourd'hui l'économie du Salvador dépend aussi des transferts de fonds de ces ressortissants installés à l'étranger? Et qu'est-ce qui se passerait si l'administration Trump mettait à exécution ces menaces de rapatriement massif?
Alors ce serait une catastrophe économique et sociale pour le Salvador, comme pour tous les pays de la région, dont la principale ressource aujourd'hui sont effectivement les transferts familiaux, c'est-à-dire l'argent qu'envoient les migrants à leurs familles restées au pays, et qui en fait permettent à ces pays de tenir à flot quasiment. Ça fait déjà 30 ans que c'est comme ça, enfin dès les années 90, cette migration massive existe, et ces transferts de fonds existent, et une très grande partie de cette population est une population qui n'a pas de papier aux États-Unis, qui est illégal. Assez périodiquement, et ça n'est pas que le gouvernement Trump, assez périodiquement, les gouvernements des États-Unis disent qu'ils vont renvoyer ces migrants ou qu'ils vont limiter les capacités de migration légale. Mais en fait, ce qu'on constate, c'est que cette migration continue, malgré les déclarations des différents présidents, et qu'elle constitue toujours la première source de financement pour ces pays, en particulier pour les populations les plus pauvres du Salvador et de l'Amérique centrale en général.
D'où peut-être cette dépendance qui a longtemps existé du Salvador vis-à-vis des États-Unis. Est-ce que Nayib Bukele veut changer ça? Et en quoi ça influence ses positions en matière de politique étrangère? Quelles sont-elles, ses positions diplomatiques?
Alors, c'est une question qui est compliquée à répondre, puisqu'en fait, Nayib Bukele n'a pas beaucoup mis en avant son programme pendant sa campagne. Donc, il a eu cette habileté de focaliser sa campagne sur sa personne, sur la valorisation par les réseaux sociaux, et relativement peu d'éléments programmatiques. Si ce n'est qu'effectivement, il a dit qu'il souhaitait relancer l'investissement privé au Salvador. Donc, au Salvador, il y a comme au nord du Mexique, des entreprises, ce qu'on appelle maquiladoras, c'est des entreprises d'assemblage de textiles ou de petites électroniques, etc., avec des conditions fiscales qui permettent d'installer ces entreprises. Donc ils souhaitent continuer à faire ce genre de choses, à favoriser l'entreprise privée. Et puis sur le plan diplomatique, c'est tout à fait vraisemblable qu'il adopte une position, moins progressiste que son prédécesseur, qui était un président issu de l'ancienne guérilla, et que donc il n'ait plus de relation avec des pays comme le Nicaragua ou comme le Venezuela, ou du moins qui n'appuie pas ce type de gouvernement. Donc une politique étrangère plus orienté sur la politique des États-Unis dans la région.
Un dictateur est un dictateur, qu'il soit de droite ou de gauche, a-t-il dit, notamment au sujet de Nicolas Maduro, le président du Venezuela, mis en difficulté par son opposant Juan Guaido, qui s'est déclaré président par intérim. Merci beaucoup, en tout cas, David Garibay, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Lyon 2.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
La musique fait son cinéma avec Nino Rota. Le Parrain, La Dolce Vita, Rocco et ses frères, Casanova, Le Guépard. Nino Rota est l'auteur des plus belles musiques de films. Interprété par l'Orchestre National de France, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, Trafic Quintet, Sol Ray, Daniel Ivinec, Thomas de Pourquerie et bien d'autres. Les 23 et 24 février à Radio France. Réservation maisondelaradio.fr. À Radio France, la musique fait son cinéma.
Un autre regard sur l'actualité, chaque jour à 18h20, du grain à moudre, Hervé Gardette.
La condition des Noirs, les discriminations dont ils font l'objet, sont aujourd'hui largement documentées. Le sujet devient plus délicat lorsqu'il s'agit d'évoquer les Blancs, une catégorie qui faisait figure d'impensé jusque-là, car défiant l'idéal républicain. Alors comment parler des Blancs? On en débat ce jeudi, en compagnie de l'historienne américaine Neil Irvin Painter et du chercheur Maxime Servulle.
Du grain à moudre, ce jeudi à 18h20 et sur franceculture.fr.
Il est 6h57 sur France Culture. Bonjour Guillaume Erner.
Bonjour Julie Gacot, bonjour à tous.
Bon, vous êtes au cœur d'un scandale médiatico-politique. Je vous somme de vous expliquer, Guillaume Erner, sur le Doudoun Gate.
Eh bien oui, vous avez raison Julie, je dois des explications aux auditeurs suite effectivement à ce qu'il convient d'appeler le Doudoun Gate, un épisode qui prendra place parmi les grandes mystifications journalistiques entre le charnier de Timi Chohara et la possession d'armes de destruction massive par Saddam Hussein. Non, Julie, je le dis, Raquel Garrido, cette avocate proche de la France insoumise, n'a pas de doudoune de marque Canada Goose. Enfin, plus précisément, puisque maintenant je rigole plus avec la doudoune, sur la photo où Raquel Garrido a superposé un gilet jaune sur une doudoune blanche, la dite doudoune n'est pas de marque Canada Goose.
Donc
c'est
vous
ma
étiez
faute.
Fait avoir.
Mais alors, oui, je suis désolé, Julie, c'est ma faute, ma grande faute. Le logo pouvait évoquer le logo de Canada Goose, mais ma vue basse de matinalier me l'a fait à croire, parce que quand on agrandit la photo, on voit très bien que la doudoune de Raquel Garrido est distinguée par la carte du Québec et non celle de l'Arctique, comme sur les Canada Goose. La doudoune de Raquel Garrido est donc une évocation, je dis bien une évocation, hein, je tiens à m'en tenir un jugement de fait et pas un jugement de valeur. Hein, si je disais qu'il s'agissait d'une copie, Julie, ou d'un faux, vous imaginez le nouveau tour que prendrait ce Doudoun Gate. Donc oui, je me suis trompé, et tout seul, contrairement à ce qu'ont suggéré les troupeaux de trolls anonymes, trolls que je ne peux pas remercier hein, puisqu'ils sont anonymes, je me suis trompé tout seul, je dois le dire, sans le secours de mon camarade Brice Couturier, Alexandre Benalla ou que sais-je. Alors maintenant, l'erreur est établie. Libération a effectué un check news. L'AFP n'a pas encore réagi. C'est une doudoune qui vaut environ 200 euros. Alors à vous de voir hein, si 200 euros, c'est une doudoune de gauche ou pas. Je me garderai là aussi de dire qu'il s'agit non pas d'une Canada Goose, mais d'une Canada Dry. Parce que là aussi, on pourrait me soupçonner de tirer des conclusions politiques du vestiaire de Raquel Garrido. Laisser sous-entendre qu'un parti serait une copie de l'autre. Conclusion que je ne tirais pas hier. Mon propos consistait en effet à dire que nous vivons dans une société qui accorde une importance immense aux marques, la dernière société primitive, les symboles gris-gris et autres amulettes que l'on nomme logo jouent un rôle décisif, ce que le Doudoun Gate démontre parfaitement. Rien n'est plus important que les marques dans notre société aujourd'hui, que ces marques soient vraies ou fausses, et puis vraies ou fausses, qu'importe d'ailleurs, puisque comme le disait Debord, dans ce monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux.